Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Michel Simonet. Si tu continues comme ça, tu finiras ramasseur de poubelles. C'était la menace que j'essuyais durant mon adolescence lorsque je ramenais un bulletin scolaire généralement assorti de l'appréciation « peut mieux faire ». À présent, et spécialement depuis que je connais Michel Simonet, j'ai l'impression que le mieux est devenu l'ennemi du bien. On peut en effet réussir à l'école, réussir selon les normes de l'école, et à force de réussite, intégrer une école de commerce ou d'ingénieur. Mais vu les conditions actuelles du travail, la prolétarisation du travail de bureau, la prolétarisation des cols blancs, cela signifie passer sa vie dans une multinationale où on ne sait plus très bien ce que l'on fait, derrière un écran, et manquer, passer à côté peut-être d'une profession plus humaine, plus aussi manuelle, riche de rencontres et de plein air. Et surtout cette profession-là située au cœur le plus lucide, pourrait-on dire, de notre actuelle culture du déchet, comme dit le pape François. Alors nous recevons aujourd'hui Michel Simonet, bonjour.
Ah, bonjour Fabrice.
Michel, vous êtes depuis 30 ans balayeur de rue. Vous avez 7 enfants. Je vous ai connu, moi, comme chantre byzantin, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc à l'église. Et puis après, je vous ai redécouvert. Alors, j'ai découvert par la suite que vous étiez balayeur. Je vous croyais quand j'enseignais au collège Saint-Michel, pas loin du collège. Et puis j'ai découvert vraiment de l'intérieur votre métier grâce à un petit livre orange comme votre tenue de balayeur en Suisse, dans le canton de Fribourg. Une rose et un balai. Livre qui au départ est un recueil à la fois poétique, un témoignage sur votre activité, qui au départ a été tiré à 1500 exemplaires, tirage déjà assez audacieux pour un recueil comme ça de on pourrait dire de poésie. On sait que la poésie se vend généralement au mieux, un best-seller c'est 500 exemplaires en poésie contemporaine, et voilà que ce livre a été imprimé, réimprimé. Et au terme de plusieurs éditions, après un an et demi, il a atteint le tirage de 18 000 exemplaires vendus. C'est un best-seller dans toute la Suisse romande qui va dans une librairie. Il ne peut pas manquer de voir ce petit livre orange, Une rose et un balai. Donc, alors, j'aimerais commencer, Michel, avec votre itinéraire, parce qu'une des singularités, c'est que vous n'êtes pas allé vers le métier de cantonnier par défaut, mais vraiment par choix, par conviction. Vous dites dans le livre, en ce qui me concerne, j'occupais en tout premier lieu un poste bureaucratique, climatisé, aseptisé, que j'ai volontairement quitté pour œuvrer manuellement sous un ciel variable. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme étude, justement, et qu'est-ce que vous avez commencé par faire? C'était quoi ce poste bureaucratique avant d'aller volontairement vers le balayage des rues?
Oui, Fabrice, vous me parlez, que vous me voyez au Collège Saint-Michel quand vous y enseignez. Je dois dire que j'ai fait ce Collège Saint-Michel, j'y ai même étudié pendant 8 ans. Et c'est vrai que si on m'avait dit quand j'avais 15-16 ans, 40 ans plus tôt, que j'allais balayer les abords de ce même collège, je crois que j'aurais quand même eu en tant qu'adolescent une peur en me disant « qu'est-ce qui a bien pu arriver à ma vie ? Quel coup du sort a pu faire que je sois devenu balayeur ?» Et effectivement aussi, on m'avait aussi, bien sûr, j'avais pas que des bonnes notes à l'école, de loin pas, donc j'ai aussi eu droit à, si tu continues comme ça, tu finiras balayeur. Alors la seule... le seul changement, c'est que je n'ai pas fini balayeur, j'ai commencé. Mais effectivement, j'ai d'abord fait le collège Saint-Michel en latin, un peu de grec aussi. Et puis, j'avais vraiment les mathématiques. L'abstraction mathématique m'était totalement étrangère et j'étais vraiment incapable de remonter cette note qui était proche du zéro par des notes moyennes en latin, en français et autres branches. Je n'excellais pas, mais j'étais le moyen. Et puis, comme mon père était dans le commerce, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu continues ? De toute façon, tu ne vas pas arriver il va être non promu, donc fait un diplôme de commerce. Et dans, au même collège Saint-Michel, il y avait l'option commerciale, diplôme de commerce, où les mathématiques étaient bien sûr beaucoup moins, le calcul, la comptabilité n'a rien à voir avec les mathématiques. Là, je m'en sortais bien, j'étais bien là-dedans. Et j'ai fait en fait un diplôme commercial à la fin de ce même collège. Et j'ai, à la fin de ce cursus de diplôme, j'ai aussi vécu une expérience spirituelle, une expérience personnelle de conversion, qui a quand même pas mal bouleversé ma conception de mon avenir, parce que je voulais, à la base, peut-être travailler dans une banque ou même travailler dans une ambassade, par exemple, pour m'occuper un peu de l'administration. Et étant devenu croyant dans un milieu plutôt évangélique au début, à Fribourg, il existait, en fait, là, je suis avec un micro et des écouteurs, il existait une station radio qui faisait des émissions religieuses œcuméniques qui s'appelait « La promesse est pour vous », qui émettait sur RTL tous les samedis à 5h du matin. Peut-être une personne plus ancienne le connaît cela. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, la correspondance, l'administration. Et c'était très peu payé, c'était presque du bénévolat. Mais j'ai accepté parce que je voulais vraiment travailler pour le Seigneur, faire quelque chose d'un peu plus concret sur le plan spirituel et pas uniquement commercial. Alors j'ai été engagé, j'ai travaillé quelques années là, dans un bureau. Mais je dois aussi dire que je crois que c'est aussi important quand on voit nos ancêtres, nos ascendants. Si je pense que j'avais été, par exemple, arrière-petit-fils, petit-fils, fils de médecin, je n'aurais peut-être pas fait ce choix d'être balayeur de rue. Moi, je viens d'une famille très, très éclectique. J'ai paysan, mon père était un indépendant dans les assurances, un grand-père fonctionnaire, un grand-père balayeur. Ce qui pour moi n'est pas anecdotique, mais quand même, c'était pas, disons, j'ai pas voulu faire comme mon grand-père, c'était une autre motivation. Mais je pense que le fait d'avoir déjà dans sa famille des personnes qui avaient, on va dire, une certaine vision des choses, une vie en plein air, on voit, finalement, on comprend peu quand on est enfant, mais on voit notre grand-père là, avec un balai travailler au bord de la route, et puis ça nous est connaturel un peu. Et quand j'étais dans ce bureau, je travaillais, j'étais heureux, je faisais la correspondance, j'avais beaucoup de lettres qui m'arrivaient de France, surtout, je répondais. Mais j'avais un peu ce besoin aussi quand même de plein air. Ça, c'était quelque chose qui m'était assez... je suis assez sportif de nature. J'aimais donc le soir, j'étais souvent dehors, et puis j'avais aussi un contact de rue, j'allais souvent dans les bistrots, comme ça j'allais parler du Seigneur, témoigner. Et puis j'avais ce lien avec la population, surtout alcoolique ou clocharde, ou qui se promenait un peu dans la rue, un peu SDF. Et j'avais quand même cette envie d'aller vers les gens. Alors je correspondais avec des personnes que je ne connaissais pas personnellement. Ça me donnait un petit manque quand même de demi-humanité presque en face de moi. Hein. Alors on avait des belles lettres, parce que des fois il y avait un courrier qui s'instaurait. Parce qu'à la base, l'émission, on proposait un texte, une Bible, et puis on avait des fois des lettres très très typées, comme ça, puis après, ben, on répondait, puis les personnes, il y avait un lien. Mais ça me manquait un peu quand même de
contact réel, quoi.
Le contact réel avec les gens, quoi, comme je disais, entre le in vivo et l'in vitro. je voulais être au milieu des gens. Et je me suis marié entre-temps, et... Quand, à peine on s'est marié, on a fait avec ma famille et moi l'école de la foi, qui est une école qui existait en fait à Fribourg, qui n'existe plus maintenant, qui durait 2 ans, une école de théologie, parce que de ma conversion dans un milieu évangélique, j'étais revenu, on va dire, dans le monde catholique. J'avais vraiment envie de connaître mieux cette église que je connaissais un peu sociologiquement quand j'étais petit. Et puis, en vivant cette conversion, je voulais, et en revenant par le biais des communautés françaises charismatiques et de Thésée, et aussi au sein de cette émission où il y avait des prêtres et des pasteurs qui...
C'était œcuménique.
L'émission était œcuménique, qui était fondée par un pasteur qui avait eu un pasteur pentecôtiste qui avait eu chez les Focolari un coup de foudre pour les catholiques, et puis il s'est fait mettre dehors de son église. Il avait vraiment eu beaucoup de courage, il avait fondé cette radio en comptant sur les dons de différentes personnes, même pas d'une église en soi, parce qu'il s'était fait mettre dehors de sa propre église, et c'était vraiment des gens individuels qui le soutenaient, qui nous soutenaient. Les émissions coûtaient cher à RTL, hein, il fallait payer. Pour pouvoir diffuser sur RTL, on avait quand même un salaire, il fallait qu'on puisse vivre. Mais cette émission, cette station radio a duré, peut-être maintenant ça doit faire peut-être une vingtaine d'années qu'elle n'existe plus.
Donc vous êtes à l'école de la foi avec votre épouse.
Et donc je quitte la radio pour faire l'école de la foi. Mon épouse avait un peu mieux gagné de l'argent que moi, donc on a pu vivre 2 ans sur les économies de mon épouse qui avait travaillé, elle, elle a la même formation que moi, elle est aussi dans le commerce. Et on a fait cette école de la foi qui nous a beaucoup apporté. Et au milieu de cette école de la foi, il fallait quand même, durant les vacances estivales, que je travaille un peu. Et voilà, je me suis dit, tiens, je postule à la ville de Fribourg, la ville que j'habite, pour demander s'ils cherchent des étudiants pour remplacer ceux qui sont camions poubelles, les balayeurs, enfin voilà. Et voilà, on cherche du monde, je me fais engager pour 6 semaines et je deviens balayeur de rue, étudiant balayeur de rue, remplaçant je ne savais pas encore, mais un futur collègue qui partait en vacances. Alors là, j'ai travaillé pendant 1 mois et demi avec vraiment le concret, l'été et l'hiver n'étaient pas encore de mise, mais disons, tout ce qui fait la vie d'un balayeur, je l'ai vécu pendant 6 semaines avec grand plaisir, avec joie, avec bonheur. Et la deuxième année de l'école de la foi a commencé. J'avais, en général, ceux qui font cette école de la foi, soit deviennent assistants pastoraux ou aumôniers de quelque chose, aumôniers de jeunes, ou alors continuent les études à l'université pour ceux qui étaient célibataires, éventuellement devenir prêtres, ou des religieux, religieuses qui faisaient une année sabbatique et qui après retournaient dans leur communauté en étant promus maîtres des novices ou provinciales, comme ça, parce que c'était quand même une bonne formation, surtout pour les personnes qui venaient d'Afrique, elles venaient presque un peu comme une. D'ailleurs, quand j'ai dit à mes frères africains qui faisaient l'école de la foi que j'allais faire balayeur, ils ne comprenaient pas, ils sont venus, ils m'ont dit, mais balayeur, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'eux, ils savaient qu'ils allaient être promus, quelque chose.
En même temps, dans notre société, être promu parce qu'on a fait des études de théologie, c'est beaucoup plus difficile.
C'est vrai. Alors après, dans le milieu ecclésial, voilà, la théologie a encore ses lettres de noblesse. Mais alors là, j'ai postulé, et heureusement, parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance, ils cherchaient du monde. Et comme j'avais travaillé en tant qu'étudiant, bon, ça n'a pas été forcément une aide parce que c'était la première fois qu'un étudiant demandait à travailler comme balayeur. Donc, ils se sont dit, bon, c'est qui pour un monsieur, c'est un idéaliste qui fera 6 mois, un dépressif, un quelqu'un qui en a marre de tout et puis qui veut faire quelque chose, n'importe quoi, mais tout sauf ce qu'il faisait avant. Et ils m'ont quand même engagé parce que faute de, il n'y avait personne d'autre qui se poussait au portillon pour devenir balayeur à cette époque-là. Maintenant, il y a quand même plus de demandes. Alors, effectivement, j'ai commencé mon travail de balayeur il y a 30 ans.
Qu'en a pensé votre femme, justement, d'avoir finalement épousé un balayeur, ce qu'elle ne savait pas?
Alors, mon épouse était... jamais je n'ai senti de sa part une remise en question du choix initial. C'est vrai que j'avais jamais parlé du fait de devenir balayeur. Elle savait de toute façon qu'on n'allait pas faire quelque chose, que j'allais pas choisir un métier ambitieux ou un métier qui allait me propulser dans une dynamique sociale qui ascendante. Mais elle a totalement accepté ce choix, qui aussi me permettait d'être pour elle également, et ce qui a été vrai, disponible à la maison le soir aussi pour la famille nombreuse que nous avons eue par la suite.
Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un balayeur. Enfin, on vous dit balayeur, on dit balayeur. Le mot que vous employez couramment, c'est cantonnier. On dit ici cantonnier.
On dit cantonnier, mais on dit aussi balayeur. Le mot cantonnier est plus fréquent, on va dire, dans la rue, si tout à coup quelqu'un est cantonnier, mais balayeur, bon, tout le monde sait
ce que c'est.
Alors, il y a le technicien de surface, qui est le mot rigolo, qui est valorisant, guillemets, pour nous qualifier de grande surface, parce que le technicien de surface, c'est aussi quelqu'un qui peut éventuellement nettoyer le couloir d'un hôpital, par exemple. Bien sûr.
Mais alors, bon, justement, en quoi ça consiste pour vous? Parce que on ne se représente pas... ce que c'est que d'être balayeur, quels sont vos instruments, quels sont vos moyens, parce que les gens voient généralement, la plupart du temps, les balayeurs, enfin les éboueurs sur camion. Voilà, ça c'est les voitures qui ramassent les poubelles qui passent, avec les gens derrière qui montent, qui descendent, qui mettent les poubelles dans la benne avec ce système de levier, etc. Vous avez un, je ne sais pas comment ça s'appelle, un char, en fait, ou un chariot à ordures. et d'autres instruments. Alors, c'est quoi ? Vous pouvez venir, parce que vous, vous travaillez seul d'abord,
voilà.
Et puis vous avez un quartier d'une certaine façon à couvrir, et vous avez poussé un chariot. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce chariot ?
Voilà, alors effectivement, nous sommes individuels, nous avons un secteur bien défini. Ça nous donne une quinzaine, voire une vingtaine de kilomètres par jour
à marcher,
à parcourir, à aller en avant, en arrière.
Vous n'allez pas dans les centres de fitness pour compenser le travail de bureau.
Voilà, finalement. Non, fitness et solarium, ça se vit au travail, quelle chance. Mais, alors oui, alors on va dire, ça dépend aussi des endroits. Par exemple, le monde alémanique est plus collectif. Il y a des groupes, ils sont tous ensemble, quatre, et puis par exemple, ils font une rue à quatre. Alors, il y a la machine, il y a la grosse machine, la petite machine, le souffleur, celui qui balaye peut-être les coins. Et puis après, voilà, ils ont fini la rue, ils vont ailleurs, et puis ils ont des énormes secteurs. Tandis que dans le monde, peut-être roman, le monde latin, le balayeur est quelqu'un qui a, on va dire, c'est le concierge de la rue. Donc, il fait tout. Dans un périmètre plus petit. Donc, c'est-à-dire, effectivement, on a un chariot qu'on pousse, on a un balai à gauche, on a une pince pour aller dans les talus avec un petit sac, on a une pelle et une petite balayette pour ramasser les tas, et voilà, on se promène avec ça dans le secteur que nous avons évolué, on vide les poubelles, on balaye les coins, il y a quand même des machines qui nous aide, c'est-à-dire que très tôt le matin, on commence un quart d'heure avant les machines, on sort le plus possible des coins, la machine passe, mais comme il y a trois machines pour la ville, donc ils viennent un moment chez nous, ils vont ailleurs, ils vont un peu chez tout le monde.
Mais vous ne maniez pas de machine, en fait.
Alors nous, on ne manie pas de machine, on a uniquement le char. Alors actuellement, c'est vrai que c'est un métier qui est en train de se modifier de manière assez significative, on nous a acheté un aspirateur de rue, qui remplace en fait le char à moitié parce que cet aspirateur, ben voilà, c'est comme une sorte électrique, donc on le pousse avec une manette qui le fait avancer. De la main gauche, la main droite tient un gros tuyau qui aspire tout ce qui, enfin, pas tout,
ce qui passe, ouais.
Tout ce qui passe de pas trop lourd et de pas trop gros. Et puis, sinon, ben voilà, on doit se baisser pour ramasser par exemple une branche. Hier, il a beaucoup soufflé, beaucoup de branches, alors ça ramasse pas, il faut aller à la main finalement. On a quand même pas mal de choses à faire à la main avec cet appareil. Il n'est pas polyvalent, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'aspirer et il aspire les mégots, les poussières, les petites choses. Oui. Les bouteilles, par exemple, il n'arrive pas à aspirer. Alors, on doit beaucoup faire de choses à la main. Il ne vide pas les poubelles, bien entendu, parce que les poubelles, il faut un autre système, d'autres personnes qui viennent vider à notre place les poubelles. Donc, déjà, on voit que notre travail commence à se compartimenter.
Oui, en fonction de la spécialisation des machines, finalement.
Voilà. Effectivement. Alors,
mais là, pour l'instant, vous l'avez déjà, cette machine ?
Cette machine, on l'a déjà. Moi, j'y travaille à moi. Pas tous les balayeurs l'ont, ceux qui sont au centre-ville, et je suis du centre-ville. On a chacun hérité de cette machine. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'étais assez opposé à cette machine. Ils le savaient. Je suis le plus ancien des balayeurs. J'ai commencé le plus jeune. Je suis le plus ancien. J'ai quand même dit mon fait. Et puis, bon, sans forcément accepter tout ce que je dis, mais ils voient bien que j'ai toujours besoin de mon char. Quand on a des escaliers, quand on a faim, parce que cette machine, elle a qu'un petit balai, et puis c'est tout, cet aspirateur. Hein. Sinon, si pour aller chercher vraiment la saleté dans des endroits inaccessibles, il faut de toute façon toujours y aller à la main, et puis descendre. Et puis aussi quand...
Mais alors, c'est aussi, c'est aussi un moteur, c'est aussi, vous dites, au niveau des odeurs de benzine, alors je sais pas si c'est à l'essence.
Non, ça, c'est électrique.
Elle est électrique, mais c'est aussi du bruit.
Voilà,
Et j'ai l'impression que pour vous, il y a une solitude du travail, et c'est un lieu très, très contemplatif, et avoir une machine, du bruit, ça viendrait troubler un peu cette sorte de sanctuaire qui se déploie autour de votre char.
Oui, déjà d'une part, et aussi pour les gens, parce que je crois que les machines sont aussi perturbantes et aliénantes pour par exemple la population. On voit par exemple, on a aussi des souffleuses, par exemple des souffleuses à feuilles hein, qu'on doit de temps en temps prendre. Mais une fois, j'ai dû prendre cette souffleuse, il y a tout de suite une lettre, écoutez, on s'est fait réveiller.
Oui, puis on met un casque, ça fait un bruit énorme.
Voilà, et la poussière, on doit même mettre normalement, comme au Japon, vous savez,
ces masques
et tout. Donc finalement, avec ces machines, moi je rentre beaucoup plus sale que si je travaille avec mon balai.
Plus fatigué, et en plus... Ouais. Ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que cette solitude que vous avez dans le travail, ce silence, peut aussi être facilement pénétré par le contact avec quelqu'un, puisque quand il y a une machine, ça peut faire une distance en fait beaucoup plus grande. Et souvent, les gens, vous dites souvent hein, que c'est un espace de rencontre, de relation avec les populations, les passants.
Oui, effectivement. Alors ça perturbe aussi, ben, tout simplement la relation humaine. Alors, évidemment, encore, j'ai droit à toutes sortes de remarques. Par exemple, quand j'ai mon aspirateur, je dis « Ah oui, ça c'est bien, c'est le progrès en marche. » Enfin, on voit que dans le monde, il y a des personnes qui plus c'est nouveau, tout ce qui est nouveau, c'est formidable, parce qu'il faut dire aussi que ces machines, elles coûtent cher, elles font du bruit. Alors, elles ont une certaine efficacité, quand même technique, qui pour certaines choses, on va dire, sont peut-être meilleures qu'un chat. Mais à la fin d'une journée, j'ai remarqué combien de fois que j'ai exactement fait le même travail avec mon chariot et mes vieux outils qu'avec cet appareil. L'un dans l'autre, c'est quasiment du pareil. Mais on est peut-être un peu plus fatigué en poussant son char à la montée, et, mis à part l'autre appareil électrique qui nous suit avec l'électricité. Mais disons, moi personnellement, si vraiment on me dit, bah, écoute, cet appareil, on va te le prendre, et puis on explique le char, et puis alors moi je suis le premier heureux, hein, ils le savent hein, d'ailleurs. Après, voilà, moi j'aime bien être au centre-ville, c'est aussi un lieu que je l'ai à cœur, et puis cette machine, voilà, on me l'a mise dans les mains, je sais que je dois l'utiliser en tout cas un petit peu, et puis voilà, je fais la part des choses, et puis on s'y habitue aussi un peu quand même. Je veux pas dire que c'est l'enfer avec cette machine, mais parce que l'électrique aussi, elle a un bruit, on va dire, modéré.
Alors, on parle souvent de la rose qui pousse sur le fumier ou au milieu des ordures. Alors déjà, on est en train de montrer que le métier de balayeur peut avoir sa noblesse, qu'on n'a pas besoin donc d'aller au centre de fitness et au solarium. Vous parlez de ce bronzage que vous avez toute l'année. Moi, je vous dis souvent que vous avez une sorte de visage tanné comme celui des marins, hein, parce que vous êtes toujours au soleil. Il n'y a pas le sel, mais vous parlez de ce bronzage prolétarien, visage, bras, cou seulement, car gros pantalon et gilet fluo obligatoire à toute heure, sécurité ou pudeur oblige. Je pense et puis vous dites, quand je vais à la piscine, ça se voit, ce bronzage bizarre.
On nous remarque. Alors effectivement, ben, ça nous ramène aussi à une certaine tradition, parce qu'évidemment dans le temps, en tout cas sous nos latitudes fribourgeoises qui étaient catholiques et assez aussi pudiques, c'est sûr que les paysans aussi étaient rarement torse nu, enfin ils s'habillaient, ils se vêtaient. Et puis moi j'ai le souvenir, voilà, de mon grand-père qui avait exactement le même bronzage que moi. ça a pas changé. Alors voilà, alors ça nous met des fois un peu en décalage, mais voilà, enfin aussi je veux dire que je crois que bon, voilà, selon les canons esthétiques, certains trouvent ça important, d'autres moins, voilà.
Alors justement, mais il y a quand même une vraie rose qui est plantée sur votre char. Vous êtes le cantonnier à la rose, c'est pour ça que le livre s'appelle « Une rose et un balai ». Qu'est-ce que c'est que cette rose? Depuis quand d'abord vous la mettez sur votre char? D'où vient-elle? Parce qu'à chaque fois on vous voit passer avec une rose au-dessus du chariot à ordures. Bon.
Oui, je le dis et je ne le dis pas comme une boutade, je crois que c'est en partie vrai. J'ai écrit ce livre pour répondre à la question qu'on me posait depuis le début dans ce métier, parce que cette rose, je l'ai mise très rapidement. Pourquoi vous mettez une rose à char? C'était là la question toute basique, pourquoi vous mettez une rose? Moi, je crois que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça comme ça. J'ai pas eu un jour une profonde réflexion métaphysique qui me disait, tiens, voilà, la rose était un symbole. Mais je crois que c'était, comme je dis, c'était un cri du char, et j'ai l'air dégueulasse avec plein de déchets. Mets-moi quelque chose de joli, relook-moi d'un lifting naturel. Alors, j'ai effectivement été chercher une rose chez le fleuriste du coin. J'étais demandé une rose qui était, que vous n'auriez pas une rose là qui est plus vendable, que vous mettez derrière, de toute façon elle doit partir, je sais pas, pour le compost. Et puis voilà, ils m'ont donné une rose gentiment, et puis tous les jours quand j'en avais besoin je venais, parce que des fois je prenais au massif printanier je prenais des fois au début un œil et un narcisse aussi, et puis à la fin c'est devenu une rose parce que l'hiver arrivant il n'y avait plus que le magasin de fleurs pour me donner des fleurs, la nature ne pouvait pas le faire. Alors effectivement, j'ai commencé assez tôt à mettre une rose, peut-être 2-3 mois après mes débuts dans le travail. Et ça a été un peu après, bien sûr, ma marque, mon signe de reconnaissance. D'ailleurs, les gens disent « Ah, ben, on voit que j'étais en vacances, parce que là, on a vu le char tout seul, pas de rose, donc vous n'étiez pas là. » Effectivement, je fais toujours attention à toujours en mettre une. Et puis, on va dire « Oui, c'est d'une part un symbole universel. » Je suis tellement étonné de voir que tout le monde est touché. Comment de toute race, de toute idée, de toute partie politique, de tout niveau social. Il y a un peu ce coup de cœur. Les gens voient, ils disent, ah, ben, je sais pas, ils sentent quelque chose d'à la fois poétique et d'identitétique aussi.
Alors, vous dites que votre métier est parfois dénigré, mais qu'il est quand même par tout le monde reconnu d'utilité publique. Vous insistez d'ailleurs sur le caractère ambigu de sa production, puisque vous dites... que sa production est à la fois évidente et mystique, en gros, et vous dites que le balayeur crée de la propreté qui, par définition, est absence de saleté, donc invisible et immatérielle. Et vous avez cette phrase que je trouve très belle, parlant d'ailleurs, faisant un parallèle avec un passage de saint Paul sur « Nous sommes les balayures du monde » et vous parliez justement du travail aussi de nettoyer, de purifier la coupe dans la liturgie. Vous dites, le rôle du balayeur, officiant et purificateur au premier degré des temples et agora des temps modernes que sont les rues, parcs et places, consiste à réhabiliter sur plusieurs niveaux et en modeste synergie avec d'autres bonnes volontés et capacités, ces lieux d'intense nature humaine. Réhabiliter des lieux d'intense nature humaine. Au fond, qui ménageait l'espace public qui permet aux gens de vivre, aux amoureux, de passer sans se dire qu'ils sont dans un tas d'ordures qui les empêcherait de déployer leur vitalité.
Oui, d'une part, c'est tout. Je crois qu'en Suisse, il y a aussi presque un gène de la propreté où on est peut-être aussi reconnu dans le sens où les gens vraiment aiment voir de la propreté. Ça fait vite mal aux yeux d'avoir quelque chose de sale de devant soi. Et d'autre part, j'étais encore étudiant, je crois, j'avais travaillé le premier été, et puis quelqu'un m'avait dit, c'était un ami qui était un peu attiré par l'hindouisme, et puis il avait dit, ah mais tu balais le temple de Dieu, tu balais le temple du Seigneur, tu balais il dit ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'hindouisme, je crois, en fait, d'être là et puis de voir la nature comme un temple. Et effectivement, je me sens à la fois nettoyeur et aussi purificateur par rapport aussi à la nature humaine qui se présente face à moi et tout au long de la journée.
Alors, vous dites dans votre livre, vous avez cette phrase, hein, les poubelles de ville modernes et solaires ou à la gueule de requins ventrus en acier inox, ou petites anciennes en fer peintes de bleu, appelées encore corbeilles par certains, sont un miroir parfois sidérant et reflétant notre société d'abondance avec assez de justesse mélangée d'opacité. Propres, nettoyées régulièrement au dehors, peu ragoûtantes au dedans, elles sont bien pharisiennes, mais parfois paradoxales. Et alors, vous faites une énumération de tout ce que vous avez pu trouver. Alors, il y a les désagréables surprises, trouver des animaux morts, par exemple, un chat, un rat, un corbeau, ou un pigeon mort, parfois un coq tout entier avec son plumage, un paquet de mauvais compost mélangé odorant, des fruits pourris, des gens qui ont réussi à uriner, ou qui ont vomi dedans. Il y a même cette fois où en hiver, où vous mettez votre main dans la... et vous êtes piqué par une seringue de toxicomane dans votre main. Enfin, vous n'avez pas eu de... Il y a eu plus de peur que de mal, heureusement. Et puis, alors, il y a toutes les trouvailles que... Donc, je fais juste un peu cet inventaire à la Prévert. Le millésime de 2005, par exemple. Alors, trouver argent par terre, 278 francs 40 suisses. Et 19,20 € et quelques autres pièces étrangères, roubles, yens et ce que d'autres. Une obligation au porteur de 10 000 francs, rapportée, croyez-moi, à la banque. Un acte notarié au milieu de la route et rendu à son notaire. Pour 64,50 € de carte téléphonique, pour 174 francs
2 cartes de trolleybus pour 9 francs de timbre-poste, 18 porte-monnaies vides, 24 porte-monnaies avec diverses cartes, 17 trousseaux de clés, 6 paires de lunettes, 5 bracelets, chaînes, 3 montres, 6 téléphones portables, 5 plaques minéralogiques de voiture et 3 de moto, un parfum de marque Allure de Chanel qui était rempli en plus, hein, c'était leur parfum complet, vous racontez cette histoire ailleurs, 191 verres de bistrot, 10 couteaux dont un à cran d'arrêt et un à chanvre, une balance à cannabis, 14 cuillères, 3 louches, un fouet, un rouleau à pâte, 17 fourchettes, 16 assiettes, 8 tasses, 9 pantalons, 4 shorts, 5 chemises, 5 slips, 15 paires de chaussettes, 4 soutiens-gorge, 20 t-shirts, 17 pulls, 5 vestes, 9 gilets, 11 écharpes, 16 bonnets, 23 paires de gants, 19 mouchoirs, 6 casquettes, 3 casques de vélo, 4 paires de chaussures flambant neuves, dont une paire de baskets pointure 52 trouvées dans une poubelle le jour suivant la fin de la saison de basketball, 5 sacs à dos, 15 sacs à main, 13 parapluies non cassés, 10 briquets fonctionnels, parce que là, vous ne parlez pas des choses qui sont des déchets, vous parlez que des choses qui sont intégralement, qu'on pourrait... Voilà, qui étaient là. 65 bouteilles et canettes de bière non ouvertes, 6 bouteilles de vin non ouvertes, voilà. Et puis, vous finissez en disant un toxicomane hébété, qu'est-ce que vous avez retrouvé allongé sur votre... Voilà, et vous parlez même après, ça finit avec des choses moins... Des balles de 9 mm, des balles en caoutchouc anti-ME, 20 grammes de canettes. De cannabis, 5 boulettes de cocaïne, 37 seringues. Bon, alors, je dis, d'abord, ces choses-là, vous avez. Qu'est-ce qu'on en fait, vous aviez un musée après, où vous conservez ça ou...
Alors, certaines choses, mais ça, quand on trouve 5 francs par terre, un billet de 10 francs par terre, on le garde, on le prend pour soi. Alors, il y avait les porte-monnaies, par exemple, qui étaient avec des cartes. Je faisais vraiment tout mon possible pour. Trouver le propriétaire assez rapidement. Je voyais une adresse, j'essayais de trouver pour essayer d'empêcher la personne de tout bloquer, parce que finalement, une personne qui se fait voler 80 francs dans son porte-monnaie, mais il y a toutes ses cartes d'identité, de permis de conduire et de banque, à la fin, si elle doit tout refaire, ça lui coûte des centaines de francs. Alors effectivement, des fois, on téléphone à la personne, et puis la personne vient chercher son porte-monnaie, très contente. J'ai même une fois réussi, ça c'était un coup d'éclat, à trouver un porte-monnaie de quelqu'un qui n'avait pas encore remarqué qu'on lui avait volé. Donc je téléphone à la personne, puis elle me dit « j'ai votre porte-monnaie », elle me dit « mais non, mais mon porte-monnaie il est dans ma poche », puis elle regarde « ah non ». Donc elle s'était fait, elle venait de se faire voler, je crois dans la poubelle, moi je viens derrière, je ramasse, et puis j'ai eu cette chance-là de trouver le porte-monnaie tout de suite. Mais sinon, effectivement, il y avait deux, trois choses, par exemple les cigarettes, bon, je les distribuais aux toxicomanes, je ne suis pas fumeur, et puis...
C'est une redistribution, en fait, dans la rue.
Une redistribution, des fois. Et puis, deux, trois choses. Je voyais... Des fois, je les laissais au char. Des habits, par exemple, je les laissais un peu au char. Et puis, parce que les objets trouvés, ils commençaient un peu à en avoir marre de moi. J'ai dit, moi, on va bientôt louer une salle exprès pour mettre toutes tes affaires. Et c'est ça. Eux, ils voulaient quand même pas avoir une trop grande quantité de choses. Ils étaient d'accord pour des lunettes ou des bijoux, des petites choses. Mais disons les choses alors à la fin, voilà, des fois je mettais, j'ai eu des gens qui sont venus rechercher des habits ou sinon des fois je les ai gardés pour moi, voilà.
Et vous racontez une histoire, parce que je me suis demandé quelle était l'issue de cette histoire. Un jour, quelqu'un qui est complètement ivre vomit à vos pieds et en disant, et ça c'est pour le cantonnier. C'est-à-dire qu'il vomit pas, si vous êtes responsable de ramasser le vomi des gens, et notamment des alcooliques. Comment, on ne sait pas très bien comment vous avez réagi. Et puis après, oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à ça? Vous utilisez quels instruments? Parce que j'étais effaré.
Oui, alors là, bon, la personne était dans un tel état que voilà, je ne voyais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire avec cette personne, parce qu'elle n'était pas en état de recevoir une admonestation, je crois. Et puis, elle est partie en titubant ailleurs. Et c'est une personne en fait, que je ne connaissais pas. Peut-être qu'après, je ne sais pas, une personne que j'aurais peut-être rencontrée régulièrement, j'aurais peut-être dit 2-3 mots en la voyant, enfin, je ne sais pas, essayer de reprendre contact. Alors là, on a tout ça du PL, bon, c'est pas très ragoûtant de faire ça, c'est pas vraiment on en a pas mal de ces vomis, surtout au mois de décembre, je dis, c'est les mois de souper d'entreprise, où souvent le soir, les gens se profitent de manger, de boire, vu que c'est payé par la boîte. Mmh. Et puis après, voilà, donc on n'a pas crois ça. Alors on doit ramasser tant bien que mal avec les moyens, avec l'IPEL et un balai qui est bien sûr dégueulasse aussi.
Vous parlez souvent de l'envers des jours de fête, de Noël, du jour de l'an, et puis de l'envers des fast-foods. Vous avez dit que depuis la multiplication des fast-foods, vous avez un nombre de déchets considérable. Et puis les jours de fête, alors c'est précisément les moments aussi où il y a des gens qui errent dans les rues tard ou à l'aube et qui répandent les fruits de leurs indigestions.
Oui, bien sûr, et aussi maintenant les bars sont ouverts quasiment jusque tôt le matin. C'est surtout, on va dire, le samedi matin et le dimanche matin que les journées sont les matins sont les plus difficiles, parce que là, tout le monde est dehors, les gens ont congé, les gens restent, font la nuit des fois, et ils sont bien sûr des fois dans un état métaphysique, et il y a des fois même des bagarres, enfin, il y a aussi des prédations, c'est un peu le moment où tout le monde se lâche, quoi. Et là, ben, nous, le lendemain matin, on vient un peu réparer tous ces dégâts, tout en essayant aussi de ne pas trop se faire molester, ce qui est arrivé une deux fois, pas chez moi heureusement, mais un collègue une fois s'est fait agresser complètement gratuitement. Et d'ailleurs, il ne travaille plus maintenant.
Il y a justement sur ces bars, vous évoquez dans un chapitre que je trouve vraiment magnifique, d'une grande teneur poétique et aussi d'une grande tendresse, je dirais. Vous évoquez un lieu qui est fermé désormais, qui n'existe plus, peut-être en raison d'une sorte d'égalitarisme, le buffet de la gare deuxième classe. Donc il y avait un buffet première classe et un buffet deuxième classe.
Oui, oui, je ne sais pas si c'est partout en Suisse, c'est comme ça. Il y avait deux classes, alors c'était parce qu'il y avait le train première classe et le train deuxième classe. Alors ils ont fait des buffets correspondants au wagon des trains. Après, bien sûr, ces buffets sont devenus... il fallait peut-être être vêtements corrects obligatoires pour la première classe. Et la deuxième classe, c'était l'endroit des cheminots, l'endroit des gens qui venaient de la campagne et qui s'arrêtaient à la gare. Et aussi, bien sûr, des habitués de la gare. Parce que la gare, c'est un lieu, c'est toujours un lieu où il y a énormément de gens qui se promènent, qui sont là, ceux qui ne savent pas que faire sont toujours à la gare. Et puis, dans ce buffet de la gare, qui était le premier bistrot ouvert à 5h30 du matin, qui était jusqu'à minuit, donc c'était un endroit, effectivement, où il y avait un grand mélange de, quand même, de populations et beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait, bien sûr, du trafic de drogue, de l'alcool, des bagarres. C'était encore le bistrot où encore des clochards, et de temps en temps, pouvaient venir, étaient un peu acceptés. C'était vraiment une cour des miracles. Hein.
Oui, c'est ça, et vous parlez de manière très belle de cette Madame Morel, que patronne courageuse et de caractère, il en fallait, ainsi que de ces héroïques sommelières dont Victoria, Eliane et Emilia. C'était des femmes qui tenaient ce...
Qui est des sommelières en général, oui. C'est très souvent des... Très peu d'hommes sont serveurs en Suisse. Hein. C'est un métier féminin. Et puis d'ailleurs, c'est la seule partie du livre où j'ai été voir quelqu'un. Donc Madame Morel, j'ai été la voir avant. Je lui ai montré le texte. Je lui ai dit Madame Morel.
Vous l'avez revue donc à cette occasion-là.
Bien sûr, c'était fermé, tout était fini, mais elle habite toujours dans l'appartement qui est en au-dessus du buffet de la gare. Ça, il l'avait acheté. Puis avec son mari, ils habitent toujours là-bas. Quoi qu'ils n'auraient plus rien à faire avec les CFF, avec la gare, mais c'est leur appartement. Et puis, j'ai été la voir et je lui ai montré le chapitre. Je lui ai dit, je veux que vous soyez d'accord. D'ailleurs, comment il faut vous appeler? Parce que c'était Madame Morel, elle s'appelait Gertrude. Certains l'appelaient Trudy, c'était le surnom de Gertrude en allemand. Mmh. Et puis, elle a dit, bah, appelez-moi Madame Morel. Puis, elle a bien ri. Puis elle est venue se faire dédicacer le livre. Et puis, je crois qu'elle était finalement... Elle était contente que je parle de ce livre, de son buffet de la gare. Parce que c'était vraiment elle, son mari s'occupait plutôt du première classe, et elle était vraiment, ça aurait dû être presque l'inverse, mais elle était très, vraiment courageuse, et puis elle tenait son restaurant.
Alors, vous croisez dans la journée des passants, mais à ces heures très tôt dans le matin, etc., notamment parce que vous avez ce secteur autour de la gare, donc apparemment, vous fréquentez des marginaux, beaucoup de... Vous avez parlé des toxicomanes à plusieurs reprises, des clochards, des personnes saoules. Mais en même temps, ça existait avant. Vous disiez que vous alliez parfois les voir. Ça fait partie de cette vocation du balayeur de rue pour vous de se retrouver au milieu de ces gens qui sont d'une certaine façon à la rue.
Oui. Alors, je voudrais dire, peut-être que ça a été aussi spirituellement pour moi une évolution, parce que quand on entre dans un milieu évangélique, c'est, on va dire, ce qui est surtout important, c'est de délivrer le message, d'évangéliser, délivrer le message, et puis ça, je trouve, c'est très bien. Mais après, quand on est, disons, quand on est dans un monde où on rencontre toujours les mêmes personnes, il y a des fois après un lien qui s'instaure, une relation aussi humaine qui vient, et puis les gens voilà, savent que je suis croyant, donc j'ai pas forcément toujours besoin de le dire et puis de l'affirmer, mais j'ai en tant que balayeur, on est tout le temps là, tous les jours là, et on est aussi prêt à recevoir, entrer dans une relation plus longue avec peut-être un accompagnement aussi.
Il y a des personnes que vous voyez régulièrement, que vous accompagnez, à qui vous avez, je dis des gens qui sont à la rue, enfin.
En tout cas, oui, alors il y a des personnes que je vois quasiment tous les jours, et aussi des personnes, je sais très bien qu'elles auront peut-être peu d'autres occasions de parler, parce que je trouve qu'en Occident, tout le monde a le droit de parler, mais l'écoute est moins importante, les gens n'ont jamais le temps, c'est le phénomène un peu du stress, on est tous occupés. Et puis, évidemment, moi-même aussi, dans mon travail, je ne sais pas noter dans mon cahier des charges que je suis dévolu au partage, à la relation, tout du long. Donc ça, c'est quelque chose... J'ai jamais été, on va dire, embêté avec ça. J'ai aussi fait toujours en sorte que mon travail soit fait. C'est toujours un peu un équilibre à avoir. J'ai toujours essayé de des fois, j'étais pas toujours prêt à parler longtemps. Et j'ai essayé de ménager la chèvre et le chou, de pouvoir toujours faire ce que j'avais à faire au niveau professionnel. Mais pour moi, évidemment, la profession, elle était au-delà du simple nettoyage. Elle était aussi dans la relation, mais ça c'était quelque
c'est
chose.
Pas, c'est pas tous vos collègues qui font ça, d'une certaine
façon. Non, parce que évidemment, ils sont pas engagés pour ça, on va dire. Après, ouais. Mais il y avait vraiment aussi des collègues qui même s'ils n'avaient pas la même spiritualité que moi, ils avaient vraiment un lien, peut-être encore des fois même plus fort que je pouvais l'avoir, parce que je suis un peu quelqu'un des fois plus timide, réservé, qu'il y avait un lien comme ça extraordinaire aussi. Dans une rue, il y a des cantonniers qui sont très très appréciés. J'ai un collègue, par exemple, il est en Basse-Ville. Vraiment, ils ont voulu le changer. Il y a une pétition de 300 signatures pour le garder dans son quartier. Et puis, au début, bon, le chef ne voulait pas à savoir le nom. Ils l'ont quand même changé. Mais à la fin, 2 ans plus tard, il était de nouveau de retour. Il y est toujours. Parce que, voilà, c'était...
Vous avez dit, c'est le concierge de quartier.
Oui, et puis c'est aussi le concierge. C'est aussi le confident. C'est une personne qui est vraiment... à sa place dans la rue. Et puis, mine de rien, comment on va dire, parce qu'il ne faut pas que ce soit... quelque chose qui soit peut-être noté, tu dois parler, tu dois être... Alors là, ça deviendrait, on serait presque en guillemets un assistant social déguisé qui serait dans la rue. Alors, il faut qu'on fasse ça de manière purement gratuite et c'est peut-être comme ça qu'humainement, on tient le coup aussi, on n'est pas...
Vous avez un passage très beau, vous parlez justement de ce chapitre intitulé « Plusieurs métiers en un ». Vous dites, si technicien de surface est un métier sans examen ni diplôme, et à l'appellation, selon moi, erronée de non qualifié, il donne parfois l'occasion de pratiquer d'autres professions par défaut ou procuration. Photographe, lorsqu'un couple de touristes japonais ou de simples amoureux, le selfie n'étant pas encore de mise, demande à être pris sur image devant la célèbre fontaine à Tingly des Grands Places, il faudra d'abord balayer bagagiste. Quand une vieille dame munie d'une lourde valise peine à monter sur le quai 3 de la gare, employée à l'office du tourisme, lorsque je dois renseigner, orienter vers églises, musées et autres lieux de notre belle cité, les touristes et visiteurs de passage qui me sollicitent, gendarme, lorsqu'on est témoin d'un accident de la circulation et qu'il faut la faire circuler en urgence, cette circulation, chauffeur adjoint, quand le travail le permettant, je monte sur le siège passager d'un poids lourd étranger pour le mener dans un endroit compliqué de la ville dont il m'a demandé la route et qui n'arrivera certainement jamais à trouver tout seul. Éducateur, sociologue, ou plutôt désamorceur de rue, voire soupape de rue à défaut d'en être le pape, lorsqu'on arrive à calmer par la présence ou par les mots une situation tendue et conflictuelle. Préambulancier, lorsqu'on s'occupe en premier d'une personne blessée ou qui vient juste d'avoir un malaise, etc. Enfin, bref, c'est vraiment incroyable tout ce que vous faites. Et vous dites, il est vrai que notre simple présence dans la cité... nous fait participer par hasard ou providence à de nombreux événements tristes ou joyeux et nous procure l'occasion d'accomplir des mouvements plus variés que le simple bras qui balaye. Vous avez l'impression, justement en lien avec votre foi, que vous êtes mis donc au milieu de cette cité
et que ce qui arrive, c'est la Providence qui vous l'envoie. C'est comme si vous étiez... Parce que vous dites, vous avez cette phrase très, très bonne, nous sommes donc à la fois au cœur de la société ou proche de ses sphincters, c'est selon. Mais voilà. Mais...
Oui, oui, alors évidemment, le métier en soi, c'est un métier voilà, où les odeurs, ou disons, c'est quand même... Il y a une difficulté quand même à travailler. Hein. C'est pas parce qu'on est balayeur qu'on trouve que la merde sent bon, hein. Ça c'est clair, on a les mêmes sens que les autres. Après, effectivement, dans ce travail, eh bien, il y a ces petits événements extraordinaires où déjà le fait de balayer, on fait du bien au genre humain, et où on fait encore du bien en plus parce qu'on est là à ce moment où il faut qu'on soit, et il y a un événement qui se passe et on doit on peut agir de manière différente et justement ajouter à notre cahier des charges un autre petit job.
Alors justement, il y a quand même un autre petit job, mais qui est un grand job, c'est votre activité de chantre. Donc une fois par mois, en Basse-Ville, à l'église Saint-Jean, il y a une messe byzantine, célébrée par le père Yohanan Goldman. Dont nous sommes habitués. Et alors, vous êtes le chant, vous dirigez ce chœur de chant byzantin, et vous disiez qu'au Collège Saint-Michel, vous faisiez du grec, mais vous chantez en grec. Et alors, il y a justement ce poème sur Christos Anesté, donc le Christ est ressuscité, poème de Pâques, qui est dans votre la série de poèmes qui s'intitule la geste des saisons. Il y en a pour chaque mois. Alors au mois d'avril, mois de Pâques, vous avez ce poème que je vais lire. Ronflement de la circulation, marteau piqueur, sirène de police, cortège de motards, son choriste, unis sans partition et accompagne avec volume et épaisseur sur sol mineur mon chant de rue à deux poumons, romain et byzantin. Arabesque vocale sous pluie verticale, singing in the rain, joie majeure en l'octave de Pâques. Vous chantez certains hymnes alors que vous êtes en train de travailler dans la rue, derrière votre char, vous chantez des hymnes byzantins.
Oui, c'est l'avantage d'être seul, d'être individuel dans le travail et puis d'être aussi en plein air. Et je dois dire que les voitures... ne servent, vous savez, le chant byzantin, il y a un bourdon vocal dessous. Et voilà,
oui, c'est ça, il y a le bison.
Je prends plus ou moins la note que me donnent les voitures pour faire quelque chose, pour chanter par-dessus. Voilà. Et puis ça me donne l'occasion aussi de m'entraîner, d'exercer, parce que je n'ai pas trop le temps de faire des vocalises à la maison. Donc, comme je disais, il n'y a pas que le fitness et le solarium, il y a aussi le conservatoire au sein du travail. Voilà.
Et les gens, parfois, vous entendent, ça s'arrête, parce que en plus, ce sont des mélodies qui vous disent des arabesques, mais le chant byzantin a un aspect oriental très prononcé. Alors, oui. Vous demandez ce que c'est
Disons, je suis assez timide, alors je ne chante pas quand même au milieu de la place, dans tout le monde, disons, parce qu'il y a quand même des endroits où je suis aussi seul, hein. Il n'y a pas que des endroits où je suis toujours plein de... où tout le monde m'entoure, c'est des fois tôt le matin, il y a un jour aussi seul, là je chante pas pour réveiller forcément les gens. Mais oui, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est beau ce que vous chantez !» C'est parce que je sais que le chant, c'est vraiment un chant qui vient, c'est un chant qui est très naturel, c'est un chant qui vient de loin, je pense pas que le chant, en soi, il est tombé du ciel, c'est des choses qui étaient là et puis qui ont été transfigurées par l'Église aussi, par le monde monastique a beaucoup fait. Le grégorien byzantin, c'est un chant a priori monastique qui a été peut-être un peu épuré, purifié. Quand on regarde des fois un peu le chant grec traditionnel, on voit déjà ce que sera le chant religieux. Il y a quand même une petite différence. Et surtout qu'il est tellement varié, il peut être joyeux, il est assez des fois viril, il est des fois heureux, et des fois il est un peu plus... triste ou mélancolique suivant le temps liturgique.
Mais alors, vous dites deux poumons romains et byzantins. Comment est-ce que, parce que vous avez parlé d'une conversion d'abord évangélique, de l'école de la foi qui est catholique romaine, mais comment est-ce que vous êtes venu au chant byzantin? Parce que vous n'avez pas été que qu'à la poubelle, au balai, mais aussi au chant byzantin. Oui, donc alors, Byzance ça, c'est le balai.
Voilà, Byzance et le balai, alors ça, c'est quelque chose qui est né, on va dire, deux ans ou trois ans avant de devenir balayeur. Il y a beaucoup de choses qui se sont finalement, que j'ai découvertes en même temps, à quelques, deux, trois années près, hein, de 20 à 25 ans, ça a été très riche. Et en fait, ma femme et moi, nous étions évangéliques, mais nous étions en train de nous poser des questions sur notre appartenance ecclésiale, et on avait vu dans une revue qu'il y avait une session en France d'une communauté charismatique qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait la Théophanie, qui avait Bible et Père de l'Église. Et puis bon, on s'est dit, ah, Bible et Père de l'Église, c'est intéressant, parce que la Bible, ça nous plaît, Père de l'Église, on va connaître. Et on a été au mois de juillet, au sud de la France, dans cette communauté qui célébrait Henri Byzantin. On n'était pas du tout au courant de tout ça. Moi, je connaissais un peu le Père Gousse, qui avait quand même, par sa liturgie, pris des emprunté pas mal de choses au monde byzantin. Mais là, j'ai découvert ce rite, et puis la musique en soi, les paroles aussi, la force de la catéchèse liturgique, ça m'a beaucoup plu. Et puis, après, j'ai fait l'école de la foi, je suis resté vraiment de plus en plus à m'intéresser à ça. Et j'avais un ami moine, qui est français, qui avait fait toutes ses études à Athènes de chant byzantin. Il était diplômé de musique byzantine. Il savait, quand il est arrivé à Athènes, il ne savait pas le grec, il ne connaissait rien et tout. Il a dû faire un travail titanesque pendant 2-3 ans. Et il est arrivé à avoir le diplôme, comme tous les autres fils de chantres grecs qui étaient dans cette école. Et c'est lui qui m'a appris, on dirait les rudiments, parce que moi j'ai l'impression d'être au bord du pays des aveugles, parce que c'est tellement énorme, tellement grand, que j'ai eu en tout cas les rudiments du chant byzantin. Et je suis toujours resté fidèle à ce... Je crois que j'aime aussi beaucoup, je chante aussi en paroisse catholique normale, enfin, latine, où je prends aussi, je suis éclectique, mais
le chant byzantin. Vous avez aussi quelques chants du graduel romain, enfin, le chant grégorien.
Voilà, les grégoriens d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai vu le grégorien après le byzantin. Donc, le grégorien étant un chant qui, par différentes strates, a été finalement issu du byzantin avec beaucoup d'écart, et puis enfin, avec beaucoup de doutes, il a pris la substance occidentale. Mais disons, il y a des choses, moi je vois tout à fait comment un byzantin chanterait le grégorien. D'ailleurs, j'ai chanté à un enterrement le Salve Regina, à l'enterrement d'un ami, papa d'un ami, il y a de ça deux semaines, et puis je l'ai chanté. Ben, je ne peux plus pas m'empêcher de chanter, on va dire, à la byzantine, mais c'est naturel. Puis les gens m'ont dit, ah, mais c'était... Oui, vous avez vraiment chanté un peu comme à l'orthodoxe. Les types, ça connaissait, c'était pas vraiment leur monde, hein, ils connaissaient oui, pas. Mais ils ont dit, oui, vous avez une façon de chanter, un phrasé qui n'est pas le même. Et puis moi, c'est vrai, quand je vois certains chants grégoriens, je vois tous les graduels surtout, je vois tout de suite d'où ça vient, et puis comment ça a été, on va dire, comment ça a évolué de belle manière également.
Alors, est-ce que, pour finir, pour conclure, est-ce que vous inviteriez des jeunes à devenir cantonniers, à devenir balayeurs de rue? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inviter? Est-ce que vous feriez, puisque vous leur diriez pour les inviter à faire ce métier, souvent dénigré ou presque plus que humble, parce qu'il est vu souvent comme humiliant?
Bien, oui, moi je leur dirais, j'espère en tout cas que les conditions de travail restent comme elles l'ont été et le sont encore, on va dire, parce que je travaille vraiment à peu près la même chose, mis à part deux, trois petites nouveautés, comme il y a 30 ans en arrière, que c'est vraiment un travail qui est bon pour le cœur, bon pour la tête et bon pour le corps. C'est vraiment les trois, c'est une unité, on va dire. Je crois qu'on est une personne... Quand on fait ce travail, et on est une personne entière. On n'est pas morcelé. Moi, je suis fatigué, c'est vrai. Mais je dors bien, je suis heureux de me lever le matin et de vivre ma nouvelle journée pleine et entière.
Merci Michel Simonet. On va finir là-dessus. Donc, balayeur de rue pour le développement intégral de l'homme. Je rappelle que vous avez écrit Une rose et un balai, aux éditions Fin de siècle, pour ceux qui veulent vous lire, je les y encourage. Et puis, on peut vous voir dans la journée, si on est dans le quartier de la gare, ou
un peu plus bas
maintenant. Oui.
Je vais à la cathédrale à peu près. J'ai été pendant 22 ans à la gare, et puis après, ils ont voulu changer un peu. Alors, je suis quand même au centre-ville, mais le centre-ville un peu plus bas, où c'est le quartier historique.
Et aussi, on peut vous rencontrer, alors là, officiant comme chantre, tous les deuxièmes, je crois, dimanches
en général, deuxième
du mois, voilà, à l'église Saint-Jean en Basse-Ville à 10h. Voilà, merci beaucoup Michel.
Merci.
C'était Entre nous soit dit, une émission proposée par Philanthropos et avec Claire Cabara à la technique. Merci, à bientôt.